Oh oui, bonjour et bienvenue à Afrique Caraïbes avec Fulgence Blanc au micro en ce jeudi 4 avril 2024. Ici à Montréal, c'est pas Jojo, hein. On a de la neige depuis hier soir. Ouais, depuis hier soir. Et puis, c'est pas 2 cm, 3 cm là, on est dans plus de la vingtaine de centimètres de neige. Voilà, enfin, moi j'ai passé à peu près, disons, presque une heure de temps en train de nettoyer la voiture, de déneiger avant de pouvoir arriver ici. En première partie d'émission, mon invité est déjà avec moi en studio. Il va nous parler de... Il est le président et responsable du programme Mini et Basket pour tous, le Basket Laval, Eric Denis. Voilà, c'est... Comme ils disent eux-mêmes là-bas, dans leur langage, le basket, c'est un modèle de réussite pour la communauté noire. Là-bas, mais pas seulement. Il n'y a pas seulement que des joueurs, des jeunes noirs là-bas. Il y a des gens de toutes les minorités. Alors, la mission de l'association de basket Laval, c'est de former des équipes et catégories créatives et compétitives, dont les entraîneurs chevronnés qui orientent l'athlète dans le, comment dirais-je, dans le programme qui convient le mieux à ses besoins. Alors, je ne suis pas mieux placé qu'Eric pour parler de ça. C'est lui qui va rentrer dans les détails. Alors, et en deuxième partie d'émission, je vais parler d'une grande dame qui nous a quittés il y a quelques jours, Maryse Condé. Voilà, la grande journaliste, écrivaine Maryse Condé, la plume de la fierté noire, née en 1934, nous a quittés le 2 avril 2024. Ouais. Professeur de littérature, écrivaine française d'origine guadeloupéenne, d'expression française, comme on dit. Le détail un peu plus tard. Et puis, j'ai un autre sujet dont je voulais parler. Ça va parler de quoi, effectivement? Je vais parler un peu du réseau africain des manifestations littéraires, le Ramali, qui vient de voir le jour à Bamako, lors de la 16e édition de la rentrée littéraire du Mali. C'est très important, ça regroupe presque tous les littéraires, toutes les maisons d'édition, les librairies, tout ça, c'est nouveau ça, c'est un nouveau pas. Et puis, il y a une bibliothèque numérique de poche qui vient d'être créée, youscribe.com. Je vais parler de ça aussi. Ouais, la littérature, ça bouge en Afrique. De toute façon, les Africains francophones, les Africains en général, ils ont beaucoup aimé. Ils aiment toujours la littérature. Ouais, de très grandes bibliothèques là-bas. Alors, pour ne pas perdre trop de temps tout de suite, je vais regarder Eric Denis, lui dire bonjour et nous présenter un peu... son bébé.
Bonjour Fouchons, merci pour cette opportunité. Donc, très apprécié de pouvoir faire partie de ton émission.
Oui. Alors, comment l'idée d'abord, d'où vient cet amour avec le basket, Eric?
Écoute,
est-ce que c'est le parcours d'Eric qui a fait que l'idée est venue à Eric et puis c'est complice parce que tu as des complices.
Ah, c'est sûr, voilà. Définitivement, même si je suis devant vous, le travail qui est fait n'aurait pas pu se faire sans 5 complices que j'aurai la chance de nommer bientôt. Mais j'ai un parcours atypique parce que je suis, contrairement à plusieurs...
Fais-nous savoir, c'est entre nous là, personne ne nous entend.
Parce que souvent, les gens qui parlent des programmes, bon, on peut même penser aux gens qui ont eu des parcours professionnels. Donc souvent, c'est eux qui sont appelés à partir des programmes pour les jeunes parce qu'ils ont eu un parcours vraiment de basket. Moi, ça n'a pas été mon cas. Moi, j'étais un joueur qui est tombé en amour avec le sport, mais à chaque fois, j'essayais de faire une équipe élite. À chaque fois, j'essayais de faire une équipe compétitive, mais j'ai été retranché. Donc moi, je n'ai jamais pu vraiment accéder. En fin de compte, j'ai joué 2 années de basket compétition et puis ma carrière s'est arrêtée là.
Donc, 2 années en tant que basketteur professionnel.
Non. J'avais
même
14
pas,
ans, non,
même
j'avais
pas 14 professionnel.
Ans. Non, non,
ouais.
Même pas professionnel.
De compétition.
Oui, compétition dans ma localité, donc okay, à
d'accord.
Laval.
Mm-hmm.
Puis, ça m'a frappé parce que j'aime vraiment le sport. Je fais partie de ceux, il y en a plusieurs, qui aiment le sport. Mm. Peut-être des gens qui se sont projetés même dans la NBA, dans le futur, mais moi, mon rêve s'est coupé très, très rapidement parce que, un, j'ai commencé très tard à jouer, mais je suis tombé en amour avec le sport et je ne pouvais pas jouer. Donc, en grandissant, je trouvais que c'était inconcevable d'aimer quelque chose autant puis de ne pas y avoir accès.
Et couper les ponts tout de suite avec.
Ah oui, oh, définitivement. Ouais. Donc, d'où, comme quand tu as vu le terme de notre programme Basket pour tous.
Oui.
Donc, c'était important pour moi que tous les jeunes qui veulent jouer au basket on va t'offrir cette opportunité-là et on va te mettre dans un endroit qui est justement basé sur tes forces, ton développement. Donc, c'était important pour moi et mes collègues avec qui je travaille, Emmanuel Borneau, Irvin Spierre,
René Dorvilus. Je les appelle tes complices.
Ah, mes complices. et j'ai aussi deux femmes exceptionnelles, Nancy Erol.
Il y a toute une équipe en arrière.
Et Jocelyne Owoka. Exact. Donc, c'est ça. Toute cette équipe-là avec qui vraiment on a mis nos forces pour offrir à le plus de jeunes possible de pouvoir avoir accès à ce fabuleux sport qui est le sport grandissant présentement au Canada. Donc,
c'est vrai, ça bouge.
Ah oui, non, le basket a pris
une expansion. Il y a même une ligue des champions de basket à Montréal.
Même deux. Même deux.
Alors, il m'apprend quelque chose. Alors, comment s'est faite la première rencontre avec tes complices, Eric?
Ben, en fin de compte, c'est, encore une fois, mon histoire a été...
Ça a été autour d'un café, dans un bar, autour d'une bière, de marcher dans les parcs.
Non, ça s'est fait dans un parc, en fin de compte. C'est que la première personne qui m'a... offert l'opportunité d'entraîner, qui s'appelle Irvin, mais il m'a dit, peux-tu venir avec moi aider à entraîner des jeunes? J'avais 15 ans. Donc, à partir de là...
Un an après avoir arrêté.
Jouant un petit peu encore.
Un petit peu encore, pas ça complètement arrêté. Coupé.
Exactement. Voilà. Après ça, quand j'ai été coupé à 16...
Parce que c'est quelque chose que Eric aime, jouer au basket.
Oh non, moi, je suis un mordu, là. Moi, j'ai un ballon dans les mains...
Le panier est toujours de là.
Puis c'est ça, c'est tout dans ma famille. Mes frères, ma soeur, on joue au basket. J'ai 4 enfants, mes 4 enfants jouent au basket. Comme le basket.
Ah, ils ont pris le virus chez le papa.
Ah oui, le virus s'est propagé. ça a été une épidémie. Là.
D'accord.
Ah ouais, de basket, là, le basket, c'est quelque chose qui était dans nos veines. Alors, donc c'est comme ça que ça a commencé.
Ça a commencé avec l'appel que l'autre a fait tout de suite, aller au parc.
Puis à partir de là, j'ai appris à entraîner. Et un des jeunes avec qui j'ai été son entraîneur.
Un des jeunes que tu entraînais?
C'est ça. Il est devenu un adulte, père de famille, il a été à l'université, il est devenu comptable, puis il est revenu travailler avec moi. Donc là, il est revenu, donc on était trois. Un des amis avec qui, lui, il avait un meilleur talent, il avait poursuivi
son emploi revenu. Du comptable quand même. À côté.
Oui, toujours. D'accord. Ah ben, il continue à payer ses factures.
Alors, comment ça marche?
Ben, en fait,
comment ça marche, ce centre de basket Laval? Comment ça marche? Qui a le droit d'aller s'inscrire? À partir de quel âge? Quelles sont les catégories d'âge qui ont le droit de venir vous voir pour participer?
Ben, nous, on commence dès l'âge de 5 ans. C'est pour ça que j'ai des gens de peu partout. Oui, on s'appelle Basketball Laval parce qu'on est sur le territoire, mais j'ai des gens de partout, de la Rive-Nord, j'ai des gens de Montréal.
Pas seulement les enfants de Laval.
Quoi. Exactement. Donc, nous, on commence à partir de 5 ans. Puis on va jusqu'à 17 ans.
Jusqu'à 17 ans.
Exactement. Donc, à partir de là, on prend soin des jeunes et puis on leur donne l'opportunité autant...
De 5 à 17.
Exactement. Autant sur le développement, l'aspect du développement, ou s'ils sont capables de faire une équipe compétitive, ils le font. S'ils ne sont pas pris, on a un programme pour eux. Donc, qu'est-ce qui est très important? On ne voulait pas reproduire qu'est-ce que moi j'ai vécu et plusieurs vivent. Parce que c'est pas évident. Puis même pour ceux qui ont joué dans leur école, ils arrivent en secondaire 5, ils aimeraient poursuivre au cégep. Ah, ils prennent seulement une équipe de
12. Eric, je vais te dire une chose. Je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Quand je te regarde parler, je vois tes yeux qui brillent. Quand tu en parles, effectivement.
Ah non, le basket, j'en mange. J'adore ça.
Tu vois, je te regarde.
Mais c'est un sport.
Tu vois, c'est-à-dire que tu peux même fermer ta bouche et tout se lit dans tes yeux. C'est moi qui te vois, les auditeurs, mais tu es obligé de parler pour qu'on entende. Voilà.
C'est clair.
Je sens que tu as du plaisir à faire ça. C'est ça, ça compte beaucoup.
C'est intéressant parce que le basket, à l'intérieur de ce sport, il y a tellement de choses que les jeunes apprennent. Moi, je suis un enseignant de carrière. Puis, je peux voir comment que tous les aspects que j'ai appris de ce sport et en étant entraîneur, ça m'a aidé à être un meilleur enseignant.
Oui.
Donc,
ça contribue à l'évolution des jeunes que vous enseignez et puis ça contribue aussi à votre propre évolution personnelle.
Ah, définitivement. Donc, il y a tellement de jeunes qui
c'est du gagnant-gagnant.
Définitivement. Les jeunes vraiment bénéficient d'apprendre à travailler en équipe, d'avoir un rôle. Puis, la beauté du basket, c'est que quand tu lances un panier, que tu perds ou que tu gagnes, mais c'est toujours un petit moment de célébration. Hein? Parce que le jeune, j'ai réussi un panier.
Moi, j'appelle même pas ça un petit moment de célébration. C'est un moment de célébration.
Ah, c'est bien dit. Merci de m'avoir corrigé. C'est un moment de célébration.
C'est un moment de célébration.
Et c'est ce moment-là qui est très gratifiant pour le jeune, très valorisant.
Oui.
Quelle que soit la circonstance du match, Donc, c'est quelque chose que le jeune et ses parents.
Et cette célébration, cette joie d'avoir été capable de faire le panier, ça se reflète aussi dans l'attitude, dans les émotions de l'entraîneur.
Exactement. Oui, exactement. Puis ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai cette réputation-là quand j'entraîne les jeunes, là, d'être très, très énergisant, là, parce que je toujours. Si tu me permets l'expression, booster mes jeunes, là, donc leur donner. Cette conviction là qu'ils sont capables à quoi qu'il arrive là, d'aller jusqu'au bout,
les encourager, les motiver.
Oui.
Alors, quelle est la différence entre la mission Nobel et Nobel Elite?
Ben, en fin de compte, le Nobel Elite, c'est un programme où les jeunes qu'ils ont vraiment un niveau, ils se démarquent. C'est un programme où les jeunes vont voyager, donc ils vont voyager dans différents endroits aux États-Unis.
Oui.
Parce que ces jeunes-là, non seulement se démarquent pour
Ces jeunes de 12 à 17 ans, vous les faites voyager déjà pour jouer des matchs aux États-Unis?
Ah, définitivement. Ah non, je vous dis, le basket, c'est devenu sérieux au Québec. Là. On ne joue pas, là. N'oubliez pas, on a 4 jeunes du Québec qui sont.
Je tire mon chapeau.
On a 4 jeunes du Québec qui sont déjà rendus à la NBA. Là.
C'est oui, allez-y, parlez-moi de ces 4, là. Ils sortent de votre centre?
Non, je ne pourrais pas jamais prendre ce crédit-là. Jamais. Mais on souhaite de faire partie de comme Parkex qui ont pu envoyer Lugensdort, qui s'est rendu. Il y a Bénédicte Mathurin qui s'est rendu. Il y a Maxence également qui s'est rendu.
Ça bouge,
Chris Boucher.
Donc, ça bouge quand même.
Oui, bien sûr. Donc, les jeunes, donc, cette idée-là est réelle. C'est plus une imagination. Donc, nous, si on peut justement préparer cette voie, ben on la prépare. Donc, on prépare ces jeunes-là tranquillement à cette réalité-là qui peut se concrétiser.
Peut-être que si Eric avait reçu cet encadrement, il n'allait pas arrêter à 14 ans.
Ah, peut-être. Mais en même temps, je pense que la vie voulait que je sois entraîneur. Donc là, j'ai compris le message. Donc, j'ai pris la voie qui m'a été accordée. Mm-hmm. Donc, ça, c'est pas un problème.
OK, on fait une petite pause musicale et puis on revient.
Super. Ouais.
Abed Ashour.
Motema nange kokyo tika kometa kasi kotika kolinga yote alinga kayo antoué pour tout malgré ma peine nous offert subir naïe na simbika kapilonia espoir
président Big Master Kouloutou Bernard de Witt monte fort.
Abed Ashour, crois-moi s'il te plaît. Oh, unité de mesure à Bolivie dans la KMS sans mesure. Abed Ashour.
Médar Kadima de Boston. Popol Moupasoula, merveille Bopé l'international.
Passé Nangele qui effectue Bawenyon, Sobakoufa Marte ya Bolingo. Sangisi makila na bango bano kisa mvula makilele kimvula ya nwe Boba fidele makota na masuwa ya bolingo ben fidele bachola Peut-être que ko diminue effectife ya bato Bazo kufa na kalamite ya bolingo. Pona mboka ya bolingo biso nyoso tolelaka ipare toza ba esclave.
Soleil, y'a Nozi Mwamba, y'a Mama Eugénie Paluku, y'a Albert Mboyo Ekofo.
Nenge mokilenge nakana soleil moko, Abed Ashour. Pourquoi pas motema na yembeta kaka kaka pona moto moko ngaye. Pourquoi tu te poses trop de questions? Aime-moi comme moi je t'aime. On s'en fout de la vie des autres. Ton amour, tu sais combien je.
Vous avez reconnu la voix, c'est Fally Ipupa, c'est bien Alliance si je me trompe pas. Utile la pièce. Oui, Fally Ipupa, ça fait partie de ses nouveautés de la République démocratique du Congo qui fait le tour du monde. Mon invité est toujours avec moi en studio, Eric Denis, président et responsable du programme Mini et Basket pour tous, Basket Laval. Il y a un site web, allez-y sur le site là-bas, Basket Laval, en un seul mot, basket avec un seul T. BASKETLAVAL.CA. Vous allez avoir toutes les informations. Si vous avez des enfants ou bien des voisins qui ont des enfants et qui aimeraient bien inscrire les enfants qui sont déjà amoureux du basket ou bien qui aimeraient bien découvrir le milieu du basket,
oui,
allez-y les voir.
Très belle découverte.
Voilà, basketlaval.ca. Eric, au total, presque, ils sont près de 1600 jeunes ici de celles qui pratiquent ce sport au sein de l'organisation lavalloise. C'est beaucoup, hein?
Ouais, c'est beaucoup. Mais c'est pas assez.
1600 jeunes.
On aspire. On
comment
aspire
vous
à
faites,
grandir.
Comment vous faites pour être toujours avec dans les jambes de ces enfants, d'être avec eux, de ces jeunes chantes.
Ben nous,
1600 jeunes, ben, c'est beaucoup quand même. Je sais que ce n'est pas les mêmes heures, ils ne se retrouvent pas
sûr,
tous en même temps,
c'est
mais
sûr.
C'est beaucoup quand même.
Ben la ville de Laval est quand même une grande ville et on a la chance d'avoir des entraîneurs d'exception. Mm-hmm. On a des entraîneurs qui ont la même passion. On a des entraîneurs qui donnent de leur temps. C'est des entraîneurs qui ont des familles, des hommes, des femmes qui aiment le basket. Puis qui veulent redonner à leur communauté, qui veulent redonner justement cette passion-là qu'ils ont eue. Donc, c'est ces gens-là qui côtoient l'organisme, mais comme ils se retrouvent à travers mon histoire, l'histoire de mes complices, l'histoire de cette organisation-là. Donc, c'est ça qui fait qu'on continue à grandir. Puis on croit qu'on espère également attirer d'autres entraîneurs qui veulent redonner. Donc, même à tes auditeurs qui sont des anciens joueurs de basket, ils sont la bienvenue de nous contacter.
Waouh! Le basket sert de carrefour pour favoriser le rapprochement entre les différentes communautés. Crois plutôt l'entraîneur des cadets, comment il s'appelle, José Carré-Julien. Les cadets AA et puis de... Oui, c'est quoi? C'est quel âge ça?
C'est 14-15 ans.
14-15 ans.
Ouais, Jose a environ 6 ans d'implication dans l'organisation.
Ok, c'est Jose, c'est pas José, c'est Jose.
Non, c'est ça, on l'appelle Jose.
Jose Carré-Julien.
Exactement. Mm-hmm. Donc Jose, c'est un excellent exemple d'entraîneur dédié qui donne tout son temps. Et puis lui... comme il peut ça lui est arrivé déjà d'avoir deux équipes à entraîner.
Wow.
Donc il donne vraiment de son temps là. Donc Joe c'est un exemple d'une personne qui donne vraiment là sans calculer son temps. Lui c'est de voir le résultat du développement qu'il donne aux jeunes et puis leur donner justement cette satisfaction là qu'ils peuvent aller plus loin. Donc c'est un bénévole là à qui on est extrêmement reconnaissant.
Oui, oui. Sans compter les autres, il ne faut pas les oublier, les Souleni, l'Okita, tout ça. Bon, j'ai vu des photos sur votre site, là, j'ai dit, c'est tous des sportifs, tu les vois bien baraqués, tout ça.
Ouais,
alors, quand on parle un peu du nombre de jeunes noirs dans cette, parmi ces 1600, c'est 70% de jeunes noirs.
Oui, donc beaucoup de jeunes.
Est-ce que ça avait été créé dans un premier temps pour la jeunesse noire?
On ne peut pas dire ça. Jamais. Parce que le basket, c'est un sport avant tout.
Oui.
Le fait est que plusieurs jeunes des communautés noires jouent au basket.
C'est ce que je me suis dit quand j'ai vu le chiffre.
Et définitivement.
Oui, les statistiques.
Puis une des statistiques qui le prouve, mais bon, au parc, on peut jouer au basket. C'est peu coûteux, très accessible. Donc, c'est comme ça un peu que, justement, les jeunes... s'approprient de ce sport. De plus, qu'on regarde à la télévision,
c'est ça.
L'identification des athlètes modèles sont directement liées à ça. Donc,
quand on parcourt les parcs de Montréal en été, où il y a les terrains de basket, la plupart des jeunes qui sont là, les Noirs sont en majorité.
Définitivement.
Voilà, ça, je comprends pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de jeunes Noirs là, dans cette école que ailleurs.
C'est ça, exactement.
Alors, on n'est pas ensemble pour toute l'émission. Quel est le conseil que vous avez donné aux jeunes gens qui nous écoutent et aux parents surtout qui ne savent même pas comment trouver un centre de formation pour leurs jeunes à la maison et qui aimeraient bien être quelque part comme ça où il y a un encadrement si professionnel.
Mais écoutez, bon, nous, c'est sûr, on a Laval, mais bon, si c'est pas trop loin, le détour vaut la peine. Mm-hmm. Mais sinon, même sur Google ou sur les sites, si vous tapez basketball dans votre quartier,
oui.
Je connais, j'ai beaucoup de gens avec qui, justement, je joue contre eux dans d'autres organisations. Je pense à D.O.D. Basketball,
oui.
Qui est à Saint-Léonard.
Vous vous connaissez entre vous, là.
Exactement. Donc, équipe RDP contre du basket.
Oui.
Il y a Parc Extension avec Nelson. Donc, nous, il y a une belle communauté de basketball dans le Grand Montréal. Donc, les parents sont invités justement à faire découvrir ce sport-là dès un très jeune âge.
Oui.
Moi, j'ai l'opportunité de commencer à 5 ans et je laisse savoir tes auditeurs, c'est moi l'entraîneur des 5 ans. Donc, je m'assure qu'ils partent bien la base. Donc, la passion que vous entendez au micro, c'est la passion qui sera transmise à votre
enfant. Voilà. Waouh. Ah non, mais c'est tellement... Ce projet, on ne peut pas se dire que vraiment, c'est pas... Ça, c'est des choses... Je ne sais pas si à Montréal, on est des centres comme ça aussi, non?
C'est sûr que nous...
Parce que les grands, là, on les voit partout dans les parcs, là, en été surtout, ils sont les jeunes.
Oui, bien sûr, mais ça dépend. Ce n'est pas nécessairement des organisations. Nous, une des distinctions qu'on a, c'est qu'on a du basketball à l'année longue.
Mmh.
Effectivement, il y a des organisations qui font des activités de basket, des fois extérieures. Ça dépend, je ne les connais pas toutes.
Ils
mais
ne peuvent
oui.
faire ça qu'en été.
Oui, exactement. Mais nous, on le fait en hiver, on le fait en été également.
Parce que vous êtes un centre de formation.
Exactement.
Voilà.
Donc, c'est ça. Donc, nous, on l'offre à l'année longue sur le territoire.
C'est à quelle adresse?
Nous, on est sur toute Laval. Donc, c'est toujours mieux de nous contacter directement. Avec les informations.
Ah, oui, oui, sur le site web.
Exactement. Mmh. Donc, s'ils veulent apprendre plus sur nous, on a quand même un site internet rempli d'informations l'organisation
et
ses activités.
Ouais, j'ai fait une remarque sur votre site d'ailleurs. D'ailleurs, le basket, c'est un sport qui n'exige pas beaucoup d'équipement. C'est comme le football, le soccer.
Exact.
Ça se joue partout, même dans certains pays du sud, il y a des gens qui jouent au soccer sans chaussures.
C'est vrai, effectivement. J'ai vu
et
ça
qui se fabriquent des ballons avec des oranges ou bien des pommes, des machins, quelque chose, ou bien avec de l'herbe, des feuilles d'arbres, des enfants.
Bon, quand j'étais au primaire, j'écrasais une canette de coca et puis.
C'était ton foot. Éric Denis, président responsable du programme Mini et Basket pour tous, je ne sais pas. Voilà. Alors, moi, bon, s'il y a des adultes qui nous écoutent, qui aimeraient bien contribuer à votre projet, à la construction de la pyramide que vous avez.
Ils sont plus que la bienvenue. Mm-hmm. Donc, il y a le courriel info@commercialbasketlaval.com. Ils peuvent nous envoyer un courriel, CV, me contacter. Ça me fait plaisir de les recontacter parce que, comme je vous dis, que vous ayez de l'expérience ou pas, c'est tellement une belle chose de pouvoir permettre à un jeune de s'épanouir dans l'activité physique.
Mmh.
Ça a tellement de bienfaits. Puis avec la situation des jeunes garçons, particulièrement par rapport à la motivation scolaire, on peut faire un bel arrimage par rapport à leur motivation. Donc c'est quelque chose définitivement
Eric,
à prendre en considération.
Rapidement, en deux secondes. Là. Quand je dis basket, qu'est-ce que Eric ressent?
La persévérance.
Merci.
Plaisir.
Éric Denis, président et responsable du programme Mini et Basket pour tous. Basket Laval en un seul mot.ca. Oui, allez-y là-bas sur le site. Il y a toutes les informations. J'ai passé du temps sur votre site.
Ouais, merci.
Fallait que je fasse mes recherches, Éric.
C'est correct, c'est apprécié.
Alors, merci beaucoup. On termine en beauté. Merci beaucoup. Et puis, quand il va voir quelques-uns de vos enfants là, qui vont se retrouver dans NBA là-bas, là. N'hésitez pas à venir nous parler de ça ici.
Ah, sans faute.
Oh là là.
Ah oui, je vais venir avec le jeune.
Témoigner. N'hésitez pas à venir nous parler de ça.
Merci
beaucoup, Eric.
Ça fait
et
plaisir.
Au plaisir de te réentendre, de te recevoir ici.
Merci.
Merci. Et je dis bon vent à ce centre de formation basketball Laval.
Bon vent à ton émission également.
Merci.
Soon. la po wenu hlala khona akekho ngakususa khona enhlizweni yami yebo julele we kisiyo yami la po wenu hlala khona akekho ngakususa khona enhlizweni yami ah wa ngifuna ukupata kahle ngifisa ukwenzela konke ngoba phela wenu yikho konke uyimpilo yami
Restez à l'écoute après la pièce musicale. Pierre Swan, qu'est-ce qu'on écoute là?
Alors oui, vous excuserez ma prononciation. The Legacy,
oui.
Nkobi Yao, Lala Nami.
Merci. Mais restez à l'écoute après la petite publicité. On vous revient en deuxième partie d'émission avec d'autres sujets. Allez, à tout de suite.
Amagcika kithi impela ntomba shoda ngawo oh yeah nami shoda ngawo ethula lami zumba eh usika sibanga ngawo
ici Marc vous écoutez Afrique Caraïbes avec Fulgence Blas.
Oui, c'est la deuxième partie, la deuxième des meilleures de l'émission, c'est la dernière bien sûr, on est ensemble jusqu'à 18h. Avant d'aller parler de la 40e édition du Festival international du cinéma Vue d'Afrique, et puis aussi de la bibliothèque numérique de poche, ensuite de quoi du Mali, le réseau africain des manifestations littéraires Ramali, qui a vu le jour à Bamako lors de la 16e édition de la rentrée littéraire du Mali. Je vais vous parler de la disparition de la grande Maryse Condé, la guadeloupéenne, la française, d'origine guadeloupéenne bien sûr, et l'écrivaine... qui n'est pas seulement écrivaine, elle est journaliste, professeure de littérature et d'expression française, bien sûr, qui nous a quittés le 2 avril dernier. Aujourd'hui, c'est le cas, il y a deux jours de cela. Elle est née en 1934, Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. L'auteur d'une œuvre importante de renommée mondiale, elle est surtout connue pour ses goûts. Voilà, c'est un classique ça, de Maryse Condé, ses goûts. Ouais, c'est vrai, c'était 1984-1985, c'est un roman historique en deux tomes qui, à travers le destin de trois frères, retrace la chute du royaume Bambara de Ségou et dont l'apparition intervient dans le contexte de l'effet Racine. Voilà, le célèbre roman d'Alex Allais, adapté pour la télévision quelques années plus tôt. On se rappelle de ça. Maryse Condé est partie, je ne peux pas me permettre de faire cette émission aujourd'hui comme ça sans parler d'elle. C'est une de mes auteurs préférés d'ailleurs. Elle a passé sa vie dans différents pays du monde, hein, surtout en Afrique. Elle est connue pour son roman aussi « Moi, Tituba, sorcière ». Ça, c'est le vieux classique, ça. Un récit d'esclaves dont la version anglaise est accompagnée d'une préface d'Angela Davis. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des Afro-Américains. Voilà. En Guadeloupe et en Martinique, on l'associe essentiellement aux œuvres traversées de la mangrove et la vie sans phare, parce que ça concerne la vie de ces gens dans ces îles. C'est un roman autobiographique. Elle a d'abord été dramaturge avant d'être reconnue comme romancière. Voilà, le théâtre, ça ne l'a jamais quitté. Elle a aussi écrit des romans pour adolescents, notamment dans la revue de Je Bouquine, travaillée comme journaliste culturelle à la BBC et à Radio France Internationale. Tout un parcours, hein. Faut pas, c'est pas juste une qui, même si on appelle la plume de la fierté noire, c'est pas seulement ça aussi, quoi, un peu. C'est fondatrice du Centre des études françaises et francophones au sein de l'Université Columbia aux États-Unis. Elle a contribué ainsi à fait connaître la littérature francophone dans ce pays, c'est-à-dire aux États-Unis. Professeur émérite, elle passe la dernière partie de sa vie à Gordes, à Le Vaucluse, en France, où, avec une assistance médicale et le soutien de son mari, elle reçoit sa famille et les membres de son entourage et continue de se questionner et d'écrire jusqu'à son dernier souffle, jusqu'au 2 avril, c'est-à-dire il y a deux jours, aujourd'hui c'est le 4, le 2 avril 2024. Ouais. Né en 1934, 90 ans. Ouais. C'est ça. Elle vient d'une famille de 8 enfants, cette époque. Oui. Et puis elle a toujours insisté sur le fait qu'elle est née dans un milieu d'embryon de bourgeoisie noire. Et que même si son enfance a été vraiment cette dame purement française, elle a déjà dit dans le cœur à rire et à pleurer, mon père commandait des livres de littérature française à la librairie Nelson. Lui ne les lisait pas, hein, mais mon frère et moi, on coupait des pages et on lisait. Petit, on a été imprégné de littérature et de culture française. Ouais. Et sa mère, Jeanne Kidal, qui était l'une des premières institutrices noires de sa génération. C'est tout un parcours, hein. Ces années d'absence sur le territoire européen ou bien dans les îles là-bas où elle s'est rendue jusqu'en Afrique. Ouais. Départ de Guadeloupe. En 53, l'année de ses 19 ans, elle part étudier au lycée Fénelon à Paris avec un étudiant en histoire. Elle fonde le club Louis Carlos Prest. Elle se souvient toujours d'une journée où une professeure sensible à son malaise vis-à-vis des comportements racistes qu'elle endure sans encore en comprendre l'origine et le fonctionnement lui propose de faire un exposé sur les Antilles. C'est là qu'elle se rend compte de son ignorance des réalités antillaises et qu'elle lit sur les conseils de son grand frère La rue Casse-Nègre de Joseph Zobel. Tout est parti de là. Cette lecture lui permit de prendre conscience de ce qu'elle ne faisait qu'entrevoir de la fenêtre de la voiture de ses parents lorsqu'ils sortaient donner le bonjour à la famille ou passer quelques jours sans leur dans leur maison de changement d'air. Waouh. Elle a découvert alors la maison d'édition Présence africaine et les écrivains de la négritude. Quand on parle des écrivains de la négritude, c'est Senghor, Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire. C'est les chantres de la négritude. Et durant ces années, elle a publié ses premiers écrits. Contes. La légende du flamboyant. En nouvelles, enfance noire. Et c'est le rêve exotique en peinture. Et ceci dénote aussi une première réflexion sur la créolité. Elle a beaucoup mis l'accent sur ça. La créolité. Ouais. Elle a fréquenté durant ses années d'études, elle a fréquenté des foyers africains et a rencontré l'acteur guinéen jouant le rôle d'Archibald dans la première mise en scène de la pièce Les Nègres de Jean Genet, Mamadou Kondé. Ouais. En 58, à la mairie du 18e arrondissement de Paris, elle l'épouse et prend le nom de Condé. C'est de là que vient son nom, Maryse Condé. Oui. Sinon, elle est née Maryse Liliane Apolline Boucolon. Ouais. Donc là, on comprend. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est de là qu'elle a eu ce nom Condé, qui est un nom guinéen. Son mari. Ouais. Ouais. Départ pour l'Afrique, en Côte d'Ivoire. En 1959, se souvient-elle, dans la vie sans phare, la coopération commençait de balbutier. Une aile du ministère abrita bientôt un bureau d'embauche pour les Français qui voulaient tenter leur chance en Afrique. Cette offre semblait faite pour elle. Elle a dit, c'était fait pour moi. C'est ainsi qu'elle se retrouve professeure de français au lycée de Bingerville en Côte d'Ivoire. Ouais, C'était avant les indépendances. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a entre la Guinée et le Ghana, la Guinée, le pays d'origine de son mari Condé? À la fin de 1961, il rejoint Mouadou Condé en Guinée. Lors des 4 jours de deuil national sécrétés par Sékou Touré à la suite de la mort de France Fanon, dont on n'a plus besoin de présenter France Fanon, le 6 décembre, elle emploie ce temps à lire l'œuvre du psychiatre martiniquais et particulièrement Les Damnés de la Terre. Ça, c'est le classique, ça, de France Fanon. Oui. Le chapitre 4 sur la culture nationale, précédé d'une longue citation de Sékou Touré dont elle relève l'ironie rétrospective. 1964, elle s'envole seule pour le Ghana, où elle rédige la première version de ce qui deviendra son premier roman, Erema Konon, à Londres pour BBC Afrique. Là, c'est quelque temps après le coup d'État du 26 février 1966, qui contraint Kwame Nkrumah à l'exil dans la Guinée de son ami Sékou Touré, du fait de son passeport guinéen. Oui, c'est le premier panafricaniste que le continent africain a connu, Kwame Nkrumah. Il voulait que l'Afrique soit un État, les États-Unis d'Afrique. On la suspecte d'être une espionne. C'est ça aussi, elle. Voilà. Grâce à l'intervention d'un avocat ghanéen, Kwame, qui connaissait pas mal les gens du nouveau pouvoir, elle est libérée, mais contrainte de vivre plusieurs mois sans passeport avant d'être finalement expulsée. C'est ainsi qu'elle part pour Londres avec ses enfants pour travailler au service Afrique de la BBC, où elle fait les comptes rendus de livres, d'expositions, de concerts et de pièces de théâtre africains ou ayant trait à l'Afrique. Waouh, on était dans les années de pleine indépendance des pays africains. Hein? C'est ça. Waouh. Celui est notamment l'occasion d'assister à sa première représentation d'une pièce de Wole Soyinka, le Nigérian. Du Lion and the Jewel, et de profiter du passage à Londres à l'occasion du congrès dialectique de la libération. C'était une époque, hein. Les gens étaient très, 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 très engagés. Les gens, ils n'avaient pas le choix parce que on était en pleine colonisation. Là, les pays africains commençaient à peine, début 60, 1960, d'avoir leur indépendance. C'est ce qui fait que j'en parle. Hein. Ouais. Ça fait partie. Marie Condé, c'est toute une bibliothèque, c'est toute l'histoire de l'Afrique. Là. Et des îles de la Guadeloupe. Au Sénégal, en 69, Marie Condé se sépare de Kwame et, avec ses enfants, elle quitte le Ghana pour le Sénégal. À Dakar, elle travaille d'abord à l'Institut africain de développement économique et de planification, IDEP, comme traductrice avant de faire une demande auprès du ministère de la coopération. Elle est ainsi affectée au lycée Gaston Berger de Kaolack, renommé lycée Valdiodio Ndiaye en 84, dans le Sine Saloum. Ouais, c'est là, dans cette ville, qu'elle a haï, qu'elle fait la connaissance d'un britannique professeur d'anglais, Richard Philcox, qui devient son conjoint, puis son deuxième mari en 81. Ouais, c'est toute une vie, hein. C'est toute une vie. Je vais vous parler un peu de ses écrits. Ah, c'est long. Marie Condé. Ouais. Parce que moi, là, à mon jeune âge, quand j'ai entendu la première fois son nom, Condé, j'ai dit, mais Condé, c'est non guinéen, elle est d'origine guadeloupéenne. Et mon père me dit, mais tu sais pas que les Guadeloupéens sont d'origine africaine. C'est après que j'ai su plus tard qu'elle était mariée à un Guinéen qu'elle a connu en France, tout ça, quand elle était aux études, voilà. Marie Condé. C'est ça. Animatrice de radio pour RFI. Elle anime une émission de radio sur RFI où, en compagnie d'universitaires, elle retrace la vie de grandes figures noires de la révolution telles que Malcolm X, Julius Nyerere, Kwame Nkrumah. En 1981, elle a invité Alain Asselin pour parler de son livre sur la question Peler l'histoire des Égyptes ouest-africaines. C'était une époque. Et c'est cette littérature qui continue d'être si vivante comme ça. Je me rappelle un peu de... Pas un peu. J'ai lu l'hommage que lui a rendu Christiane Taubira, l'ancienne ministre de la Justice en France, garde des Sceaux. Très, très, très bel hommage. Ils se connaissent. Il dit, mais les gens me demandent... qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais dire sur elle? Je la connais, je sais qui elle est. Si je parle, les gens vont dire oui, c'est son amie. C'est ce qui fait qu'elle... Non, mais c'est très touchant. J'ai lu ça de A à Z, je me suis dit, voilà, ça c'est séjour en Guadeloupe pour la visite officielle du mémorial de l'esclavage. C'était en 2016. Voilà. Je vais vous parler quelques jours, vous parler un peu de littérature de la diaspora Haïti. Elle a touché à tout, hein, tout ce qui concerne les Noirs en général. Oui. Les prix. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu comme prix? 87 grands littéraires de. Grand prix littéraire de la femme, prix de Alain Bouchon, pour moi. 88 prix Anaïs Segala de l'Académie française. 88 prix Libérature en Allemagne, pour ses goûts. 93 prix Pütenbach pour l'ensemble de son œuvre. 50e grand prix littéraire des jeunes lecteurs de l'Île-de-France. 94, ainsi de suite, jusqu'en 2018. Voilà, il y a eu le nouveau prix académique de littérature institué pour. Par Nouvelle Académie. Ouais. 1998, membre honoraire de l'Académie des Lettres du Québec. Officière de la Légion d'honneur 2014. Chevalier en 2004. Grand Croix de l'Ordre National du Mérite 2019. Grande officière en 2011. Commandeur en 2007. Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres 2001. La liste est longue. Les romans. Histoire de la femme cannibale, en attendant la montée des eaux. Ses goûts, 1, ses goûts, 2, pays mêlé, moi, Tituba. Mais qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Tout un parcours. Littérature jeunesse, essai. Waouh. Noir, c'est noir. La créolité sans le créole, la créolité without creole. Non, non, c'est tout un parcours. On va en musique. On va en musique.
I knew how it would feel to be free. I wish I could break all chains still binding me. Yeah. Wish I could say all the things that I can say when I'm relaxed. Starting anew. I wish I could be like a bird in the sky. Don't leave me. How sweet it would be to find that I could fly. I'd soar to the sun and look down at the sea. Then I'd sing, 'cause I know how it feels to be free. Then I'd sing, 'cause I know how it feels to be free. I wish I could share all the love that's in my heart. Wish I could break all things that bind us apart. Wish you could know what it means to be me. And you'd see, you'd agree,
'cause if we ain't, we're murderous. Wish I could be like a bird in the sky. How sweet it would be.
Je pense bien que vous avez reconnu cette voix, c'est celle de Nina Simone. I wish I knew how it would be to be free. Wow. Alors, c'était un hommage à Maryse Condé, la plume de la fierté noire. Que la terre lui soit légère. Et que son esprit repose en paix. Toutes mes pensées à ses proches et à sa famille. On va rester dans le domaine de la littérature, bien sûr. Ou bien je vais parler du cinéma avant, non, de la littérature encore. Ouais, avant de venir parler de Vue d'Afrique, la 40e édition. Je disais, il y a une bibliothèque numérique de poche qui vient de se créer de l'autre côté de l'Atlantique, en France, bien sûr. YouScribe, ouais, tu écris. Ça permet de lire partout, tout le temps. Passionné de lecture, il y a un site web, allez-y sur le site là-bas, YouScribe, en anglais. YOUSCRIBE.com. Allez, tu écris.com. C'est une bibliothèque numérique de poche qui me permet de lire partout, tout le temps. Donc, les passionnés de lecture et les étudiants, les profs, les professionnels en formation profitent des livres, d'audiobooks, de BD, de titres de presse disponibles en ligne sur tous les supports, smartphone, tablette, ordinateur. Et il ne suffit pas d'avoir le bouquin. C'est-à-dire le papier, le papier dans sa main, quoi. Donc, c'est une bibliothèque adaptée à tous les publics, avec un catalogue enrichi de tout, de tous les jours, qui ressemble à plus d'un million d'e-books, e-books, de BD, de titres de presse, d'audio-livres, de littérature jeunesse, de rapports universitaires, d'ouvrages professionnels et partitions de musique, et tout y est. Voilà. Vous allez découvrir les rayons de la plus grande bibliothèque numérique d'Europe et d'Afrique. Donc, YouScribe, qui est présent en France et dans 11 pays d'Afrique, le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Burkina Faso, le Mali, la République démocratique du Congo, la Guinée, l'Afrique du Sud et Madagascar, et plein de nouveaux pays à venir qui vont s'ajouter. J'espère que tous les 54 pays du continent vont être présents sur cette plateforme numérique. Bon, c'est l'innovation pour révolutionner la lecture et se veut comme aussi être acteur de la diffusion de la culture et du savoir à travers le monde à bas coût. Très, ouais. Les valeurs de cette bibliothèque numérique de poche, c'est la communauté. C'est une communauté forte et croissante à laquelle ils sont très attachés en Europe, en Afrique et un peu partout dans le monde. Donc, vous êtes libre, chacun de nous peut aller s'inscrire pour avoir accès à tout ce qu'ils ont. Alors, c'est millions de titres de presse, de BD, de livres, d'audio, de littérature. Et puis, la proximité et la disponibilité. Voilà, ça reste en alerte permanente pour répondre à la communauté chaque instant, c'est une manière d'accompagner les lecteurs et puis répondre à leurs doutes, à leurs interrogations et tous les besoins essentiels pour tout le monde. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment très intéressant. Solidarité, clé du succès. Voilà. La transition numérique comme solution pour YouScribe. YouScribe, c'est YOUSCRIBE.com. Allez-y là-bas, vous allez tout trouver. Et puis de l'autre côté, rapidement, il y a le Mali, le réseau africain des manifestations littéraires, le Ramali, qui a vu le jour à Bamako dernièrement lors de la 16e édition de la rentrée littéraire du Mali. Il réunit d'ailleurs des auteurs clés du milieu littéraire africain dans le but de mutualiser leurs efforts et de mieux faire d'abord connaître la littérature du continent. Moi, j'appelle l'Afrique le vieux continent. Voilà, c'est le vieux continent. Le Ramali aspire à favoriser la croissance de la littérature et des livres en Afrique à travers divers événements littéraires tels que les foires du livre, les festivals et les forums. Il cherche à relever aussi des défis du secteur littéraire en promouvant la collaboration, la synergie et puis l'échange entre les professionnels de la littérature de différents pays africains. Donc, le réseau est dirigé par une équipe de personnes issues de différents pays. Au poste clé, on retrouve les personnalités suivantes. Ibrahima Aya, qui est du Mali, en tant que président. Ange Félix d'Afrique de Côte d'Ivoire en tant que vice-président, et Nadia Esmali Maroc en tant que secrétaire général, et Morakabe Rax, c'est à quoi qui est de l'Afrique du Sud, c'est bien diversifié, j'aime ça. Voilà, secrétaire général adjoint Karim Chik, algérien, trésorier Safiatou Fort Sissoko qui est du Burkina Faso, trésorier adjointe, et Michel Rakotoson de Madagascar qui est conseillère. Voilà. Allez-y, allez-y, profitez-en. J'espère qu'ils vont s'entendre pour pouvoir permettre à tous les amoureux de la littérature africaine de se retrouver. Alors, je peux me permettre un peu de parler de cinéma, Vue d'Afrique, avant de passer la dernière pièce musicale. Oui, rapidement, les 40 ans, la 40e édition du Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Voilà, ça commence bientôt, là. Ça commence bientôt. Voilà, c'est tout à fait correct. Ça commence le 11, là. Ouais, c'est... N'hésitez pas, si vous allez sur le site là-bas rapidement, vudafrique.org, vous allez trouver toute la programmation là-bas. Oui, en salle, samedi 13, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh, à 11h, perdu, après coup. Voilà, salle, mais ouais, ça, débat avec les réalisatrices de perdu et après coup. C'est vrai. Je vais tout faire pour recevoir l'un des membres de la direction de Vue d'Afrique la semaine prochaine, le mardi. Ici, pour l'émission de jeudi prochain, bien sûr, pour qu'on puisse parler de cet événement, 40e édition du Festival international du cinéma Vue d'Afrique. Je dis un grand bravo à Géraldine Dechêne, qui est la directrice générale, avec toute son équipe. Voilà, on va terminer en beauté. On a une pièce musicale encore qui nous permet de... Je peux continuer sur ce volet culturel. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un festival qui pas tous les films viennent pas seulement de l'Afrique. Il y a des films qui viennent des îles, des Antilles, soit de Guadeloupe ou bien d'Haïti ou bien quelque chose comme ça. Tous les films sont pas originaires d'Afrique. Hein, c'est des billets individuels, hein, je sais pas. Vous pouvez avoir des billets de tarifs Vue d'Afrique, adhésion Vue d'Afrique et des billets individuels de $14 et autres. Donc, je pense bien que ça va permettre aux gens de... Ça finit le dimanche 21. Voilà. Commence le 11 et le dimanche 21. Toujours avril, là. C'est fini, quoi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il y a du temps. Vous allez avoir le temps au moins de passer dans une de ces salles, là, pour aller voir sur le site, là-bas, vudafrique.org. Allez voir toute la programmation et où est-ce que les films sont projetés. Voilà. Ça permet à chacun de vous. Merci à toi, Pearson. Ouais. Bon week-end. Et je dis merci à notre invité, Eric Denis, de Basketball Laval. Voilà, merci à Catherine Bourderon. Je dis un grand merci à nos fidèles auditeurs et auditrices d'être toujours avec nous sur les ondes de Canal M. On termine avec qui? Pearson Morija, c'est l'Ivoirienne. Silo, prenez soin de vos minutes et sur ce, je vous dis... Ciao. De ce que moi je sais, demandez-vous si chichi, demandez-moi mon arrière, la seule qui peut gérer, j'aime tout ce que moi je sais, demandez-vous si chichi, demandez-moi mon arrière, la seule qui peut gérer, oh, gérer, oh. Les rois de ce monde sont si inférieurs à mon Dieu, je regarde et je vois personne semblable à mon Dieu, c'est lui qui bénit la vraie richesse et ta
après la pause.